Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému ou réfléchir, et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Ciel Alaal Belkacmi pour son livre « Du bidonville à la prévention spécialisée, du lien affectif au lien social ». Bonjour Alaal.
Bonjour Pascal.
Je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Ciel pour l'émission « Un livre, un auteur ». Ça me fait vraiment plaisir à plusieurs titres, parce qu'en fait, il faut dire pour nos auditeurs que nous avons plusieurs vies ensemble. Pas
tout
seulement une relation de directeur de collection à auteur, car c'est moi qui ai dirigé en fait, ta publication dans une de mes collections, mais nous avons aussi un vécu commun dans le monde salarié. J'ai été conseiller technique dans une structure en Seine-et-Marne où toi-même tu es salarié.
Tout à fait, Pascal. C'est un immense plaisir aussi pour moi de me retrouver aussi à Chartres aujourd'hui pour parler de ce livre qui m'a fait réfléchir beaucoup sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle et qui m'a permis en fait de rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par le livre en général et par les autobiographies en particulier. Et je te remercie infiniment parce que c'est une première pour moi. Je suis complètement néophyte et c'est un challenge sympathique.
Bon, alors ce livre, c'est le premier livre que tu publies ?
Tout à fait.
Alors déjà, première chose, du bidonville à la prévention spécialisée. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques éléments de ce titre ?
Oui, Pascal, c'est en fait une histoire un morceau de vie paraître un enfant qui arrive au bidonville, donc de Nanterre, le plus grand d'Europe, en 58, à l'âge de 6 à 7 mois. Et en fait, ça s'est passé comme un cheminement à tous les niveaux, qui m'a amené du cœur de ma famille, donc mon papa, ma maman, et puis mes frères et sœurs, au sein de ce bidonville. Ensuite, un parcours préadolescent et adolescent à la fameuse cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois, qui était, avant de s'appeler les 3000, s'appelait la Rose des Vents, n'est-ce pas ? C'était une très belle résidence à l'époque. Et en fait, tout ce cheminement m'a amené à rêver, en fait, de donner un petit peu ce qu'on m'a donné, ce que la vie m'a donné. C'était un parcours quand même assez particulier qui partait d'une situation matérielle et financière très, très, très limitée et qui prouve que l'amour et le fait d'être dans la bienveillance vis-à-vis d'un enfant par les rencontres, mais aussi au tout début par mes parents et mes frères et sœurs, Cette bienveillance m'a aidé à grandir en rencontrant des gens chaleureux, des gens intelligents, des gens qui nous donnaient notre chance, des gens qui venaient nous chercher, qui étaient par exemple, je cite de mémoire Daniel et Momo, qui venaient des équipes d'amitié et qui venaient dans les bidonvilles nous chercher pour nous amener vers la culture, vers Paris, vers le cinéma. Et ça m'a permis de rencontrer des gens absolument fantastiques qui étaient complètement dans du bénévolat total.
Et donc, en fait, on va peut-être revenir sur ton parcours, mais tu as fini par devenir éducateur en prévention spécialisée.
Tout à fait.
D'où la seconde partie de ce titre. Et aujourd'hui, tu travailles toujours en prévention spécialisée. Faut dire aussi que tu es donc instructeur ou moniteur, je sais pas comment on dit, en boxe anglaise, c'est ça?
Moniteur fédéral en boxe française, mais tu as raison, c'était la dominante de mon parcours au niveau des sports de combat, c'était la boxe anglaise.
D'accord.
Et ensuite, j'ai rencontré une personne qui a été un peu de ton profil, qui était un boxeur champion d'élite, boxe française, au niveau de la police française, et qui était responsable à la douane à Paris. Et il était détaché et on a eu une rencontre par le biais du comité d'entreprise de Carrefour, que j'étais à l'époque secrétaire du comité d'établissement de Carrefour Paris Nord. Et donc, il m'a enseigné, on va dire, les techniques de pied. Et moi, je lui ai donné un petit peu, modestement, même ma compétence en poing. Et donc, ça a fait un beau couple sportif qui a ensuite sur les rings et sur les différents titres de je peux le citer d'ailleurs, je confonds avec Pascal Le Reste puisque c'est une rencontre extraordinaire aussi, mais il était instructeur et il était champion d'élite national 3 fois de suite.
D'accord. Et son nom alors, c'était, tu te rappelles le
alors,
son
c'était Alain Coestier.
D'accord.
Qui était aussi grand responsable des douanes de Roissy.
Ok.
Il était complètement détaché pour le sport.
D'accord.
Voilà. Et ce monsieur m'avouait, quelques années après notre rencontre, qu'il n'avait aucun lien avec les gens des quartiers sensibles, ou comme on disait à l'époque, et des quartiers populaires. Et que c'était la rencontre avec Alal Belkacemi, moi-même, qui lui avait fait changer un peu son regard sur cette population-là.
Ok. Une belle rencontre.
Une très belle rencontre, oui.
Très bien. Ouais. Alors donc, sur la couverture de ton livre,
oui.
Il y a une très belle photo de famille.
Tout à fait.
Je ne sais pas si tu désires en parler, mais voilà, cette photo de famille, elle est magnifique et on voit ta fratrie avec ton papa, ta maman. Et donc, je te demande si tu veux en parler, d'autant que ton sous-titre, c'est du lien affectif au lien social. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur,
oui,
sur
tout à fait, Pascal. En fait, cette photo, pour moi, elle symbolise absolument le livre. Ce livre qui était un essai au départ, et je reviendrai sur la genèse de ce livre, si tu le permets. Et en fait, effectivement, cette photo, elle est très, très forte pour moi parce que, en fait, j'avais 8 ans sur cette photo. Et comme tu l'as vu, j'étais toujours auprès de ma maman puisque j'étais au centre de un petit peu de la famille. Et le papa est mort accidentellement une année après. Je venais d'avoir mes 9 ans. Il est décédé 3 jours après mes 9 ans. Et cette photo symbolise cette force de l'amour, de l'affection et du lien absolument, absolument fondamental qui fait qu'une famille fonctionne ou ne fonctionne pas. Et Dieu merci, elle a beaucoup, beaucoup fonctionné. Elle fonctionne encore aujourd'hui malgré le décès, bien sûr, des deux, de la maman et du papa. Et effectivement, Pascal, du lien affectif au lien social. Le lien affectif, pour moi, il est fondamentalement au sein de la famille, au départ. Au départ, à la naissance d'un enfant, comment il grandit, comment il est cadré, comment il est accompagné dans ses petits malheurs et dans ses joies, et comment tout ça fait grandir un enfant. et donc du lien affectif au lien social, parce qu'effectivement, la société, c'est un petit peu, on va dire, le macrocosme d'une famille, puisqu'on rêve tous d'avoir, comme dit Khalil Gibran, je crois que tu connais bien aussi, il dit une chose très très forte qui m'a aidé aussi à me construire, je crois, c'est il dit « La terre est ma patrie et l'humanité ma famille ». Donc ce cheminement du lien affectif au lien social, j'ai voulu à un moment donné redonner ce qu'on m'a donné. Donc en rêvant de quitter une grosse entreprise que tu connais, c'était Carrefour France, dans laquelle j'ai fait mes armes de citoyen et aussi un peu de syndicaliste, et qui fait que le lien social, effectivement, c'est redonner à la société, en tout cas au microcosme, au quartier, ce qu'on a pu me donner comme cadeau, comme la vie me l'a donné.
Tu parles de Carrefour, je crois que tu as eu des responsabilités importantes d'ailleurs en tant que syndicaliste au sein de Carrefour.
Oui Pascal, j'étais tout jeune technicien et il y avait un ancien syndicaliste qui a repéré en fait un accrochage entre moi et mon chef. J'avais 2 ou 3 mois d'ancienneté, je venais de signer mon CDI en tant que technicien, et puis mon chef me réclamait de faire plus de clients dans la journée. Donc moi j'exprimais avec force que 8 clients bien réalisés, c'était déjà pas mal, et que j'étais un débutant, je débutais dans le métier. Donc le chef a continué à insister, et moi je n'ai pas, comment on dit, lâché l'affaire, et j'ai eu gain de cause. Et l'ancien syndicaliste qui passait par là, on peut le nommer, il s'appelait Jean-Pierre Gay, il m'a dit « Oh là là, bonhomme, tu m'intéresses, est-ce que tu ne veux pas venir dans le local syndical ?» Et mon chef me regardait avec des gros yeux, il se disait « Qu'est-ce qu'il va faire ?» Et j'ai été dans le local syndical. Ça a été le début d'un, à l'époque, délégué du personnel, ensuite élu au CHSCT, ensuite secrétaire du CHSCT, ensuite élu au comité d'entreprise et secrétaire du comité d'entreprise, et ensuite, au bout de quelques années, le comité central m'a repéré, et donc je suis passé président de la Commission nationale du logement pour 120 magasins. C'est des milliers de salariés.
Wow.
Et donc, tu t'imagines la signature d'un jeune basané des quartiers populaires qui a de telles responsabilités. Et franchement, ça m'a aidé à structurer ma pensée et mon action syndicale.
Voilà, les auditeurs ont compris que Alaa Belkacemi est une personnalité avec énormément de facettes et donc qui a eu un parcours extrêmement riche également. On va faire une première pause musicale et on se retrouve avec Alaa Belkacemi.
Merci.
Juste après.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Alaa Belkacemi pour son livre « Du bidonville à la prévention spécialisée ». Bien, alors Alaa, tu viens de nous expliquer là ton parcours chez Carrefour en tant que représentant syndical, et je sais que tu y as mené de belles aventures. Je voudrais revenir également sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure concernant ta famille et dire aux auditeurs qui n'ont peut-être pas lu le livre qu'il y a une forme d'hommage à l'entrée de ce livre. Donc, pour ta famille, ce qui est pas toujours fréquent quand on écrit un livre, on n'est pas forcément dans cet hommage. Et chez toi, par contre, voilà, il y a cette revendication. Tu le lis dans ton sous-titre, hein, du lien affectif au lien social. Tu es donc dans cet hommage. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, Pascal, c'est toujours très, 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 avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Puisque tu as mis le doigt sur le côté sensible de l'histoire de ce petit livre, ce témoignage, qui n'est qu'un témoignage d'un parcours humain, en toute modestie, et qui était simplement un mémoire d'éducateur spé en juin 2000.
Éducateur spé, peut-être définir.
Éducateur spécialisé.
Voilà, donc c'est un diplôme d'État d'éducateur spécialisé, qui est un diplôme d'État, donc reconnu et qui permet donc de prétendre aux fonctions les plus hautes du champ du travail social en France. Excuse-moi, c'était juste
pour... Je t'en prie, tu as raison. En fait, tu as raison, c'est un hommage en premier lieu à ma maman. À ma maman, puisque, comme je te l'ai dit précédemment, j'ai eu la chance d'avoir un papa jusqu'à l'âge de 9 ans. Je l'ai toujours, bien sûr, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon être. Mais j'ai eu la chance d'avoir un cadre, un visage paternel pendant 9 ans. Et ensuite, pendant plus de 40 ans, je suis devenu le bras droit de ma maman, l'ami, le confident, son bras droit. Déjà à l'époque, tu te souviens, on parlait des allocations familiales, des problèmes de papier. Ma mère était analphabète, elle n'a appris ni l'arabe ni le français au niveau classique. Et donc, très très vite, je suis devenu responsable. Et cet hommage dont tu parles, il est en premier lieu pour Amma, celle qu'on appelait Amma, celle que mes frères et sœurs appellent Amma, et d'ailleurs les petits-neveux et petites-nièces, pour lui rendre hommage. Parce que l'histoire, si je peux en parler, c'est ce livre, aujourd'hui, par ton biais, il est un peu un miracle. Pourquoi ? Parce que j'avais écrit pendant 3 années de préparation du diplôme d'éducateur spécialisé au CMEA d'Aubervilliers. Pendant 3 années, j'avais écrit sur papier et toujours... paix à son âme, Monique Bess, qui était directrice des CMEA d'Aubervilliers, me disait « Alal, il faut te mettre à l'ordinateur, il faut te mettre à l'ordinateur ». Et moi, je traînais, jusqu'au jour J. Ce jour J, je venais d'acheter un véhicule tout neuf, une 406 pour ne pas dire la marque. Et en fait, les 406 avaient un petit défaut, les premières séries. Les gens qui connaissaient le défaut, ils tapaient sur le coffre arrière et puis tout s'ouvrait. Les portes s'ouvraient, étaient centralisées. Et effectivement, ce jour-là, c'était en juin, on avait décidé avec Bachir, un autre élève des CMEA, de faire un break sur les écrits et sur le travail et d'aller au cinéma. Et en sortant du cinéma, minuit, le coffre était ouvert, mon cartable avec tous mes écrits de 3 ans avait disparu. Avec ma caisse à outils que Carrefour m'avait offert. Donc, je me suis dit, comme dirait Coluche, est-ce qu'il faut essayer le gaz ? Donc, j'ai dit, non, ça, c'est pas pour moi. Je suis rentré à la maison en larmes, malgré ma quarantaine, je crois. J'avais peut-être 40 ans déjà. Je suis rentré en larmes et je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai plus rien ? Et ma mère, paix à son âme, m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, mon fils, ce n'est pas grave. Maintenant que tu as perdu tout ça, qui étaient des écrits très techniques, puisqu'il s'agissait d'écrire un diagnostic, comment installer une équipe de prévention spécialisée sur le Bas-Montreuil. Donc, c'est le Bas-Montreuil, c'est Paris, pratiquement. Donc, c'était très, très lourd, très, très conséquent, et ce n'était pas très intéressant à lire, il faut le dire. Et donc, ma mère m'a pointé le front et le cœur. Elle m'a dit, tu vas écrire ce que tu as là et là. J'ai dit, écoute, maman, c'est très facile à dire et tout. Et je l'ai embrassé sur son front et j'ai été dormir. Et le matin, une pêche d'enfer. J'ai commencé à prendre les cahiers, à écrire. Et ça sortait. Et en fin de compte, le travail de 3 ans, je l'ai réalisé en 2 mois et demi. Et j'ai rendu le fameux mémoire qui était en fait une partie de l'histoire de ma vie. Voilà pourquoi je l'ai appelé du lien fictif au lien social et comment effectivement c'était un hommage familial et un hommage essentiellement vers la fameuse Amma, celle qui a élevé 7 enfants, 4 jolies filles qui ont traversé les bidonvilles, qui ont traversé les 3000 pendant les années où on était impacté par le sida et la drogue et où tout le monde a été préservé par son éducation, sa rigueur, sa sévérité et son amour permanent.
C'est une histoire remarquable. C'est une histoire pour un film, en fait, ça.
Ça
que
pourrait.
Que tu nous racontes, là. C'est,
ça pourrait, mais assez, en tout cas.
Alors, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai été très séduit quand tu m'as donné ton manuscrit. J'ai été très séduit par le texte qui n'est pas simplement, comme tu viens de le dire, un ouvrage technique ou destiné aux spécialistes. C'est vraiment un ouvrage très sensible et qui montre combien le parcours humain est fait de détours. Et comme tu viens de le dire, parfois il y a des virages, il y a des choses un peu dramatiques, mais bon, il faut savoir aussi discerner la lumière. Dans l'obscurité et savoir rebondir à partir des choses qui restent tout de même présentes et qui ne sont pas toujours négatives, comme tu as su si bien le dire. Voilà, donc en fait, tu es ensuite allé vers la prévention spécialisée, tu as quitté Carrefour donc, et tu es rentré dans le champ du travail social.
Voilà, c'était les années 92, 91, 92, où par hasard, encore une fois, le hasard, mais bon, on dit que on parle souvent du hasard, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie, c'est une horloge extrêmement bien huilée et qui dépasse l'entendement humain, il me semble. Mmh. On était, comme tu as dit, on était dans la fin des années 91, 92, et... Coup de chance, l'entreprise Carrefour France décide de centraliser ses services après-vente. Moi, j'étais rattaché donc au service après-vente de Carrefour Aulnay-sous-Bois et j'intervenais sur la clientèle de toute la région, Paris inclus. Et donc, ils me proposent de rejoindre Champs-sur-Marne. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais déjà appris un petit peu à m'exprimer et j'ai donc négocié un départ à l'amiable avec l'entreprise Carrefour qui était très florissante à l'époque. Ça a été une chance pour moi qui m'a donné l'occasion d'acheter une maison et où j'ai pu quitter la cité des 3000 avec ma maman et mes frères et sœurs. Donc c'était une belle aventure aussi pour tout le monde. Et donc à partir de là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue la technique ? Ou est-ce que je vais vers là où j'ai toujours rêvé d'aller ? Ce que j'ai oublié de te dire, Pascal, c'est qu'en 77, j'ai fait ma première colonie de vacances en tant qu'animateur avec la ville de Drancy. Et ils avaient un patrimoine à Doulaincourt, que je recommande à tout le monde dans la Haute-Marne, qui est magnifique. Et donc, j'ai fait ma première colonie. À l'époque, c'était 3 semaines.
Excuse-moi, à Doulaincourt, c'est pas là où il y a le fameux château de Voltaire ?
Doulaincourt,
c'est pas là où il y a le château de Ciré-sur-Blaise ?
C'est possible, en tout cas c'est en Haute-Marne, mais je me souviens pas de cette précision-là.
Excuse-moi, c'était juste un détail.
Oui. Et donc, à partir de là, l'animation me plaisait énormément. Et de 77 jusqu'à mon mariage, de 77 à 90, j'ai fait des colonies de vacances 2 à 3 fois par an. C'est-à-dire que Carrefour me demandait si je devais être payé ou transformé en vacances. Je demandais des congés pour vacances, pour colonies de vacances. Et donc, j'ai fait tous les âges, des 4-5 ans jusqu'aux adolescents, avec des camps itinérants en Grèce, la Tunisie. J'ai pu voyager tout en étant payé. C'était extraordinaire. Et donc, ça m'a formé un petit peu ma dimension citoyenne et un petit peu enfant du monde. Et à partir de là, tout en étant technicien de mai 78 jusqu'à 92, année de mon licenciement à l'amiable, j'ai fait des colonies de vacances et je rêvais d'avoir un métier de l'animation et du social. Donc il y a eu cette possibilité-là Carrefour France a été très respectueux de mon engagement, puisque j'avais jamais eu d'accro dans mon métier et dans mon côté engagement avec syndicaliste, etc. C'était assez, assez clair. Et donc, arrive le DEFA donc, à l'époque. Et j'apprends que à Saint-Prix, dans le 95, à côté de Montmorency, les fameuses poires de Montmorency, il y a une école, Saint-Prix, qui recrute pour le DEFA. Donc je négocie avec, à l'époque c'était les AFR, allocation de formation reclassement, à Aulnay-sous-Bois, je négocie avec la NPE, et ils m'acceptent la formation. Je passe donc toutes les premières parties du DEFA, et je sors avec une formation générale DEFA.
DEFA, on va quand même dire ce que c'est pour les auditeurs.
Alors, diplôme de formation à l'animation. C'était un diplôme professionnel, contrairement au BAFA, diplôme professionnel de formation au poste de...
Aux fonctions de direction.
Aux fonctions de direction,
dans l'animation. C'était un diplôme de niveau 3, c'est-à-dire
niveau 3, tout
un
à
diplôme
fait.
Important quand même, tout à fait. Dans l'animation.
Donc, je ne l'ai pas abouti parce que, comme je vais te le dire, à ce moment-là, au moment où je fais mon stage... Mon stage final, puisque j'avais fini ma formation de base. À ce moment-là, Madame Nicole Glohagen, une très grande dame que je salue et que je respecte énormément, qui était directrice des équipes Rue et Cité à Montreuil, elle-même engendrée par les équipes d'amitié du fameux Hubert Flavigny, pédopsychiatre, paix à son âme. Elle recherchait un éducateur pour remplacer une éducatrice qui partait pour mettre un enfant au monde.
D'accord.
Farida, que je salue, qui est devenue ensuite elle-même responsable. Et donc, pendant cette période-là, j'ai appris le métier d'éducateur en prévention spécialisée. Et là, Pascal, c'était le coup de foudre. Mmh. J'ai dit, c'est absolument le métier que je veux exercer.
Eh ben, on va y revenir après une pause musicale. Avec Alal Belkacemi.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donnés. Malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne porte pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Lorsque la nuit nous réunit, son corps, ses mains s'offrent au mien, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Alal Belkacemi. Alal Belkacemi qui nous raconte en fait sa passion maintenant de la prévention spécialisée.
Alors voilà, Pascal, je découvre donc la prévention spécialisée avec la chance, et tu connais beaucoup mieux que moi le domaine, d'être dans une des équipes les plus anciennes de France, puisqu'il faisait partie des pionniers de la prévention spécialisée. Avec donc Monsieur Hubert Flavigny, président des équipes d'amitié, et ensuite président de Rue et Cité. Ouais. Voilà.
Et qui, donc, était, qui était un pédopsychiatre.
Pédopsychiatre, clinicien, très 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 haute compétence et très grand humaniste.
Ouais, qui a développé en fait, enfin, qui a contribué à développer la prévention spécialisée au détour des années d'après-guerre, hein, 1945-1950.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
Avec d'autres, avec le juge Chazal, avec...
Deligny, Fernand Deligny, voilà. Qui était juste à cette époque, je crois.
C'est ça, c'est ça, Deligny. Voilà. Il y avait Jean-Louis Lang également, Jean-Louis qui Lang. Était pédopsychiatre voilà. aussi.
Monique Besse et Annick Prigent, voilà. que je salue.
Voilà, qui était,
en espérant qu'elle est encore de ce monde.
Qui ensuite sont devenues directrices, je crois, ou chargées de... ou responsables de formation.
De formation au CMEA.
Au CMEA d'Aubervilliers.
Tout voilà. à fait. Tout à fait.
Bien, donc en fait, tu arrives en prévention spécialisée. À quelle époque ?
J'arrive en prévention spécialisée en 92-93.
D'accord, 92-93. Voilà. Très bien. Et tu vas travailler combien de temps alors
Là, je reste en Seine-Saint-Denis, donc essentiellement à Montreuil.
À Montreuil.
J'avais fait un premier quartier, puis ensuite toute la fin, les 7 dernières années, au quartier Léo Lagrange, qui okay. se trouve à la pointe de Trois-Villes. Trois villes qui ne sont pas très simples de leur histoire, c'est-à-dire Montreuil, Rosny, Romainville et Noisy-le-Sec, 4 villes.
D'accord.
Et ce quartier Léo Lagrange, il était réputé à l'époque grand banditisme, etc. Tous les stigmates qu'on peut mettre sur un quartier quand on ne le connaît pas de l'intérieur. Voilà. Donc, à partir de là, je découvre le métier et je remercie mon chef de service qui est toujours... En plus ou moins en fonction, qui s'appelle Monsieur Stéphane Magie, que je salue, et qui était donc le chef de service sur le quartier Léo Lagrange et sur le bas Montreuil, et sur Bagnolet, pardon. Et donc avec lui, on échange, et il se trouve qu'on a un petit peu, on va dire, une certaine philosophie du regard sur l'autre ou du rapport à l'autre. Et donc, très sympathique. Ensuite, arrive Katia Baudry, que je salue aussi, qui était mon binôme éducatif, puisqu'on avait la chance d'avoir homme-femme. Et donc, on parcourt le terrain, Léo Lagrange, et de jour en jour, on découvre la prévention spécialisée, ses concepts, la libre adhésion, le respect de l'anonymat, la non-institutionnalisation, l'absence de mandat. Et donc, ça m'allait complètement... C'était en écho et en résonance totale avec ma façon de vivre mon humanisme et ma citoyenneté.
Voilà, donc en fait, ça fait donc presque 26 ans, 26, 27 ans que
C'est
tu
ça.
Es en prévention spécialisée.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, tu travailles donc en Seine-et-Marne.
Tout à fait.
Donc dans l'association... de la sauvegarde de l'enfance de Seine-et-Marne.
De Seine-et-Marne.
Et tu travailles sur le nord du département.
Tout à fait. Essentiellement sur les villes de Villeparisis, pour le plus gros du temps, et une partie sur Mitry-Mory, ville que j'habite aussi.
D'accord.
Et qui est passionnante par ses actions autour des familles et de la jeunesse.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt de la prévention spécialisée par rapport aux jeunes, aujourd'hui ?
Eh bien, moi, je le pense avec beaucoup d'humilité aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai. Il me semble que le département, en tout cas sur la Seine-et-Marne, je crois qu'il y a eu, à un moment donné, une erreur d'orientation, puisque la prévention spécialisée a été un peu massacrée. Je vais être un petit peu fort dans mes mots, mais je pense que la prévention spécialisée, qui était à l'origine, depuis les initiateurs de ce beau métier, à l'origine, on était quand même sur une tranche de 16-25 ans, en lien et en direct et en relation avec les publics, entre guillemets, même si le mot est un peu dur, sur tout ce qui était en rupture avec la société, qui était en risque de marginalisation. Et donc, la prévention spécialisée avait toute sa fonction et toute son intelligence. Aujourd'hui, avec les orientations départementales, on est sur du 11-17 ans en priorité, sachant que les 11-17 ans sont quand même déjà dans un cadre scolaire, puisqu'il y a obligation de scolarité jusqu'à 16 ans, et qu'il y a au sein de la scolarité infirmière, psychologue, et tout, et le CPE, etc. Donc, je trouve que la plus-value de la prévention spécialisée aujourd'hui, elle a un peu perdu de son sens. Et que ce métier, malheureusement, et je pense, parce que je suis pas très loin de la retraite, Pascal, je pense qu'on y reviendra en force. Parce que c'est vraiment un manque, surtout avec l'impact de ces dernières années, avec la radicalisation, avec les phénomènes justement de repli, d'isolement, etc. Et donc je crois que la prévention spécialisée a de nouveau tout son droit et devrait être beaucoup plus encouragé en France et notamment dans les grandes banlieues.
Voilà, parce qu'il faut dire aux auditeurs que la prévention spécialisée, c'est tout d'abord intervenir dans l'espace public, travailler dans la rue avec les jeunes qui s'y trouvent. Donc les éducateurs de prévention spécialisée vont à la rencontre des jeunes dans la rue.
Tout à fait. Et la spécificité, c'est que justement l'éducateur de prévention spécialisée, il a son propre regard sur le jeune ou sur les groupes de jeunes, qu'il essaye d'effacer les étiquettes et qui va à l'encontre du jeune. C'est-à-dire que la démarche, elle est essentiellement sur le questionnement de l'individu, de la personne, du jeune, et non pas des groupes de jeunes, et que le collectif vient après, mais que pour construire ou pour aider à reconstruire ce jeune, on doit arriver avec un regard neutre. On évite les amalgames, on évite les adjectifs trop lourds à porter, et notamment, je l'ai vécu en Seine-Saint-Denis, avec des fois des phrases un peu politiques qui catégorisaient très vite et très bas les groupes de jeunes. Et donc, avec ce regard-là, il y a, pour moi, hein, aujourd'hui, une possibilité qui est infinie. C'est-à-dire qu'on peut utiliser simplement le lien, la discussion, bien sûr le dialogue, le sport, le loisir, la construction de X situations et de X solutions, notamment les rigides quartiers, les chantiers éducatifs. Donc c'est un métier très très riche qui a une caisse à outils, j'aime bien utiliser ce terme symboliquement, qui a une caisse à outils qui va s'alourdir et s'enrichir au fil des rencontres et des compétences. Puisque Pascal, je crois qu'on est d'accord là-dessus, chaque jeune est un individu unique, et chaque personne est unique, avec son parcours comme le mien, qui n'est qu'un parcours, qu'un cheminement, et qu'on ne peut pas faire une mayonnaise en disant les jeunes ou les gens des quartiers, etc. Je crois que beaucoup ont l'individu.
Donc en fait, l'éducateur va dans un quartier spécifique, il rencontre les jeunes et ensuite, en fonction de la demande du jeune, il y a un accompagnement spécifique qui se réalise. Et comme tu viens de le dire, cet accompagnement se fait avec tel type ou tel autre type de spécificité. Par exemple, on peut aider le jeune à travailler son insertion sociale en travaillant avec lui son CV, par exemple. Mais on peut aussi l'aider à résoudre ses problèmes administratifs s'il lui manque des papiers ou s'il n'a pas de papiers du tout, comme parfois on voit aujourd'hui pour certains jeunes qui sont en grande difficulté, qui vivent dans la rue depuis 2 ou 3 ans.
Tout à fait.
Voilà, donc en fait, tu as un peu profilé le fait qu'il y a aujourd'hui des difficultés. Alors, on va pas y rentrer parce que le mois prochain, nous aurons ici à ce micro Anan Bousseta qui nous parlera justement de prévention spécialisée et radicalisation. Mais tu viens quand même de dire que il y avait une grande difficulté avec le politique, le monde politique, qui est dans une tentation et tentative d'instrumentalisation de la prévention spécialisée.
Hein. Tout à fait. On a vu beaucoup d'équipes, notamment sur le territoire français, qui sont effectivement rentrées dans cet état d'esprit, je dirais, qui fait que non seulement ils sont instrumentalisés, mais l'âme du métier est en train de se perdre. Puisque quand on commence à rentrer dans des situations où il n'y a plus cette liberté, cette libre adhésion et ce respect de l'anonymat, on glisse, on bascule vers autre chose. Cette autre chose, on l'a vu notamment dans le sud de la France, où les éducateurs de prévention spécialisée qui essayent de garder intacte la philosophie du métier et le métier, eh ben, ils sont eux-mêmes entre deux feux. Mmh. Est-ce qu'on va travailler plutôt dans un regard de répression, d'étiquetage, de fichage, et on est en train de glisser dans certaines régions, pas toutes, Dieu merci, mais on est en train effectivement de glisser dans cette forme de prévention. Mmh. Pour moi, ce n'est pas de la prévention spécialisée, c'est autre chose.
Bien sûr. Voilà. Nous allons faire une pause avant de retrouver, comme tous les mois, la rubrique des livres. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, avec ce mois-ci, pour notre grande joie, Alal Belkacemi.
Merci.
Et donc tout de suite la rubrique des livres du mois. Alors ce mois-ci, j'ai choisi 5 livres tout à fait passionnants. L'un de Thibaut Vian, L'éducation par le voyage, donc publié chez l'Harmattan dans la collection Tourisme et Société. Donc Thibaut Vian est docteur en sciences de l'éducation, il est professeur de philosophie en Guyane, il est passionné d'Amérique latine, où il vit d'ailleurs, et il partage sa vie donc entre l'enseignement et puis ses voyages, l'écriture évidemment. Et donc lui, il milite en fait pour une école itinérante. C'est quelqu'un donc qui est tout à fait passionnant. Je redis le titre du livre. Donc, L'éducation par le voyage de Thibaut Vian. Alal, si tu veux, tu peux regarder les livres pendant que je présente les autres. Donc, un autre livre, donc, sous la direction de Vincent Bresse, qui est le président de l'association PMA Anonyme. Alors, c'est en pleine controverse aujourd'hui. Il y a des débats de société et donc je trouvais ça intéressant de présenter ce livre qui s'intitule « Je suis l'une d'entre elles ». C'est la première génération de personnes conçues par PMA avec don et qui témoigne donc avec une préface de Geneviève Delézy de Parseval et une postface d'Irène Théry, un livre publié également chez l'Harmattan. Donc sous la direction de Vincent Bresse. Un troisième livre, alors de Fatima Lanette, Passionnariat. Alors c'est un livre sur l'engagement des femmes dans les mouvements violents et les conflits armés. Donc cette jeune auteure, Fatima Lanette, donc, qui est enseignante, elle a été également responsable de programmes auprès d'organisations spécialisées dans la prévention de la radicalisation. Elle est consultante aujourd'hui internationale et elle est spécialiste du djihad au féminin. Mais elle a une très grande une très grande connaissance en fait de la violence chez les femmes et des luttes politiques en Europe notamment. Et donc son livre dresse le portrait de plusieurs femmes. Voilà, je rappelle ce titre donc de ce livre tout à fait intéressant, « Passionnariat, de l'engagement des femmes dans les mouvements violents et les conflits armés », publié chez l'Harmattan. Livre donc écrit par Fatima Lanette. Ensuite, quelque chose de plus léger, si j'ose dire, même si on est toujours en fait dans la violence, c'est l'affaire de Boulogne, histoire d'une meurtrière au cœur des années 30. Donc un livre publié par deux femmes, Anne-Marie Garagnon et Jacqueline Zinetti, toujours chez l'Harmattan. Avec un sous-titre, ouvrez les guillemets, « Ma tante m'a fait rater toute ma vie », point de suspension, « Je l'ai tué ». Fermez les guillemets, c'est publié dans l'Intransigeant le 4 janvier 1934. Voilà, donc les auteurs, faut en dire un mot quand même, Anne-Marie Garagnon, qui a été ancienne élève de l'école normale supérieure de Sèvres, est agrégée de grammaire. Elle est spécialiste de l'étude grammaticale et stylistique des textes des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est aujourd'hui maître de conférence à l'UFR de langue française de Paris-Sorbonne. Et Jacqueline Zinetti est médecin psychiatre. Elle a été chef du service de psychiatrie du sujet âgé à l'hôtel Bretonneau de Paris. Voilà, donc elles ont écrit toutes les deux ce livre, « L'affaire de Boulogne, histoire d'une meurtrière au cœur des années 30 ». C'est un livre tout à fait intéressant que je vous invite à découvrir. Et enfin, un dernier livre, « Ceux d'ici », un livre donc traduit de l'américain, un livre de Jonathan Dee, chez Plomb, Feu croisé. Donc, c'est un livre très intéressant qui montre un peu l'envers du rêve américain et donc qui fait un portrait social aussi d'une Amérique un peu... inquiétante et une Amérique qu'on a peu coutume de voir. Donc Jonathan Dee s'est spécialisé aussi sur l'observation un peu du nouvel autoritarisme qui monte aux États-Unis ces dernières années. Alors pour ceux que ça intéresse, surtout aujourd'hui avec l'Amérique de Donald Trump, donc je rappelle le titre, « Ceux d'ici », un livre de Jonathan Dee. Et nous faisons de nouveau une pause avant de retrouver Alaa Belkacemi pour son livre.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel pour la dernière partie de notre émission Un livre, un auteur qui invite aujourd'hui Alaa Belkacemi pour son livre Du bidonville à la prévention spécialisée, du lien affectif au lien social. Alaa, nous sommes donc dans cette dernière partie. Tu es toujours en prévention spécialisée aujourd'hui, mais tu l'as dit tout à l'heure, toi-même, tu prépares aussi un départ en retraite, mais active, je présume.
Oui, tout à fait, Pascal, c'est ce que j'espère. Dans 7 mois, officiellement, 6, 7, 8 mois, officiellement, je serai à la retraite. Et donc, j'aurai mes 62 ans. Comme on dit, Inch'Allah, c'est une joie parce que, un peu comme toi, à ton image, j'ai toujours été, grâce à l'amour de ma mère et à la famille et aux rencontres, préservé aussi par l'éducation, par le sport. Puisque dès les bidonvilles de Nanterre, on avait des bénévoles qui s'appelaient les semeurs de joie, qui en fait étaient des catholiques, qui venaient dans les bidonvilles et qui nous apprenaient justement à sortir de nos baraquements pour prendre l'air, pour aller à la Défense, au Salon de l'Enfance, etc., etc., la culture. Et donc, cette culture par le sport, il me semble, et je pense qu'on va se rejoindre tous les deux parfaitement là-dessus, elle est absolument fondamentale. Quand on commence à s'éduquer, à s'auto-éduquer par la rigueur que demande le sport, par le bien-être, par la bienveillance vis-à-vis d'un partenaire et non pas un adversaire, même quand on fait de la boxe, on peut tout à fait rencontrer celui qui est en face avec l'esprit partenaire. On l'aide à évoluer, on l'aide à progresser et vice-versa. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et moi, j'ai toujours eu dans la chance de pratiquer le sport, les sports de combat et le football, puisque c'était aussi le sport populaire, n'est-ce pas? Donc, je me projette dans cette retraite et éventuellement autour d'une activité socio-sportive, éventuellement même avec en échange avec le Maroc, la France, l'Algérie, avec des choses qui sont en train de bouger, qui se développent. Et donc, moi, je souhaiterais vraiment m'investir toujours et encore sur le lien social par le sport. Parce que je crois fondamentalement que toutes les valeurs qu'on retrouve, quel que soit le sport d'ailleurs, et je suis un peu comme toi, je pense que tous les supports peuvent devenir intelligents et peuvent construire l'individu et le futur citoyen que sont nos enfants. Ce sont les enfants du monde. On est obligé aujourd'hui de travailler l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. On est obligé aujourd'hui de travailler pour cette humanité qui parfois se perd, notamment dans certaines prises de décisions importantes, politiques. On l'a vu notamment vis-à-vis de la prévention spécialisée. Et il me semble que tu as écrit un livre concernant la prévention spécialisée qui est assez récent.
Oui, oui, c'est ça. Mais bon, c'est moi qui fais l'émission et c'est sur ton livre. Je vais botter en touche sur cette question. Mais tout à fait, je viens de publier un livre à ce sujet. Ouais. Et toi-même, alors, là, c'est le directeur de collection qui parle. Tu as des projets d'écriture Quand tu partiras en retraite, il y aura le sport d'un côté et tes engagements bénévoles, ça, je n'en doute pas. Mais tu as toi-même des projets d'écrire encore d'autres livres?
Tout à fait. J'espère écrire un autre livre qui ira un peu plus loin sur le cheminement familial et qui poussera un peu plus loin. C'est-à-dire que je me suis arrêté pratiquement à la période de 3000 et de Carrefour. J'aimerais aller plus loin puisque les amis et toi en particulier, je crois que cette dimension là de cheminement qui est un simple témoignage mais quand même assez authentique puisque c'est une vie et on parle de ce que, comme on dit, on ne donne que ce que l'on a et c'est ce qu'on m'a éduqué comme ça et ça j'aimerais en parler et développer un peu plus avec bien sûr tout ce que la vie m'a donné.
Il y a aussi d'autres choses qui seraient importantes que tu puisses écrire et témoigner, car tu ne l'as pas trop évoqué, même s'il y a des moments où j'ai cherché à te tendre la perche. Mais dans le cadre de tes mandats syndicaux, tu es très présent auprès des salariés. Et je sais que là, la sauvegarde de l'enfance de Seine-et-Marne, tu es très engagé, très proche des salariés. Et le travail que tu fais est très important dans un contexte où on sait qu'il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui vont pas bien, qui ont besoin d'être soutenus, d'être aidés. Et je sais que tu fais un travail tout à fait remarquable et un travail qui n'est pas d'ailleurs toujours reconnu à sa juste valeur du côté du management.
Eh bien, écoute, Pascal, je crois que tu as effectivement dit les choses. Je ne sais pas si ce travail est remarquable, en tout cas, il est sincère. Et quand on s'engage et quand on est élu par des salariés, c'est pour défendre les salariés. Et ça, je me le suis inculqué depuis très longtemps, depuis, comme tu sais, les années Carrefour, au tout début de mon mandat syndical. Et les différentes formations ont fait qu'effectivement, j'ai un énorme respect pour l'action syndicale. Même si aujourd'hui, effectivement, globalement, avec les derniers décrets et les dernières lois, l'action syndicale a perdu pratiquement 30% de sa force au niveau de ses élus, au niveau de son temps de délégation. Mais tu as raison. Moi, au sein de la sauvegarde, je crois avoir donné beaucoup de temps pour être en conformité avec mes idées. C'est-à-dire qu'il y a de l'honnêteté, de la sincérité et aller jusqu'au bout des combats. Il n'y a pas de guerre. J'aime pas ce terme de guerre, mais il y a des combats à mener. Il s'agit de temps en temps de dire stop. Stop. Tu as dit le mot. Aujourd'hui, c'est les burn-out, c'est du harcèlement parfois, c'est des dépressions, alors que la société a tous les outils. Notamment du droit du travail, les inspecteurs du travail, les différentes institutions, pour effectivement respecter les gens. Et ça, on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas tricher avec ça.
C'est très important aussi pour sauvegarder la démocratie dans un moment où elle est quand même assez malmenée. Et donc tout ce travail autour du respect de la personne et aussi du juste calage entre le management et puis les personnes qui interviennent donc dans l'espace public, les éducateurs, et bien c'est quelque chose qui est hautement nécessaire et je sais que le travail que tu fais est complètement nécessaire. Je tiens en tout cas à saluer ce travail que j'ai pu moi mesurer de très près quand j'étais donc conseiller technique à la sauvegarde de Seine-et-Marne. Il nous reste très peu de temps, il nous reste quelques secondes. Je voudrais que tu nous dises un mot de lumière comme tu as su mettre pendant toute cette émission pour nous dire au revoir à l'AL.
Ben, merci beaucoup Pascal, c'est une première pour moi. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup, j'espère, de sincérité. Et pour faire court, en fait, il me semble, et tu as dit le mot, pour éviter justement les burn-out, le harcèlement, le non-respect de la personne humaine, je crois qu'il faut aller dans le sens des grands qui ont marqué notre humanité. Gandhi a dit, il n'y a pas de chemin pour la paix est le chemin. Et je redirai encore une fois, si tu le permets, Khalil Gibran qui dit « La terre est ma patrie et l'humanité ma famille ». Et moi, je pense qu'avec ces hommes-là et avec ces sagesses-là, on peut avancer tous ensemble sans avoir à se détruire.
C'est une conclusion magnifique, mon cher Alal. Je t'en remercie. Je remercie également Simon Martin, donc à la technique,
Merci.
Pour la qualité de son travail.
Merci beaucoup, Simon. Merci, Pascal.
Au revoir, Alal. À
À
bientôt.
très bientôt. Merci.
We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. so we all must lend a helping hand.